Bonjour, c'est une très grande joie pour Daniel et moi, et toute la famille d'ailleurs, de pouvoir vivre ce jour de consécration d'Élisée notre fils, comme l'un des anciens dans votre église, avec Nathalie à ses côtés. Merci pour les mots de reconnaissance des jeunes. Je crois que nous avons vraiment retrouvé Élisée. L'église locale reste une réalité sociale qui a besoin de structuration, de direction. Et la consécration, c'est l'opposé de l'autoproclamation. Chaque membre de l'Église est appelé à la consécration. C'est un engagement réciproque, au responsable de s'engager à exercer le ministère qui lui est confié, et à l'Église de reconnaître et d'accueillir ce ministère. L'Église, par là, s'engage à soutenir la personne consacrée, à prier pour elle, à en prendre soin. S'il y a Église, c'est parce que Jésus règne. Il est le Maître. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, quelle que soit la déroute, la désolation, les violences dans le monde. Et nous avons besoin de connaître davantage la nature de ce règne de Jésus, de son royaume. Alors pour cela, je vous propose de rejoindre les disciples qui s'entretiennent en privé avec Jésus autour de la question de son retour et de la fin du monde. Jésus annonce la progression du mal, la proclamation de la bonne nouvelle du royaume, une détresse terrible et le besoin de prier et de rester vigilant. Dans ce contexte des derniers jours avant sa mort, c'est juste avant le texte que nous a lu Jess pour le temps de Sainte-Cène, Jésus raconte à ses disciples la parabole des trois serviteurs. Alors, je vous invite à écouter ou à lire comme vous le souhaitez. Il en sera comme de quelqu'un qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200. Et un troisième, 100, à chacun selon ses capacités. Puis il partit en voyage. Celui qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. De même, celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et régla ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces en disant « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or. J'en ai gagné 500 autres, les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Le serviteur qui avait reçu les 200 pièces s'approcha ensuite et dit « Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or. J'en ai gagné 200 autres. Les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit « Maître, je te connaissais comme quelqu'un de dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit « Mauvais serviteur, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai rien planté. Tu aurais dû placer mon argent à la banque et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-les à celui qui en a 1000. Car à celui qui a, on donnera davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Et ce serviteur bon à rien, jetez-le dans l'obscurité du dehors, là où l'on pleure et grince des dents. Alors cette parabole, vous la connaissez comme la parabole des talents. Et on peut mettre peut-être l'image là. Le maître remet, souvent on résume ainsi cette parabole, le maître remet à ses serviteurs un certain nombre de talents, à certains plus qu'à d'autres d'ailleurs. Il s'en va et il revient pour régler ses comptes avec eux, égard à celui qui n'a pas fait fructifier son don. Alors je vous propose de fouiller ensemble cette parabole pour y trouver des pépites de sens que Jésus y a mis et qu'il veut peut-être nous transmettre ce matin. On nous parle de quelqu'un qui part en voyage, un homme qui a des serviteurs qui lui sont propres et qui a des biens sur lesquels il gouverne. Ce maître, il faut bien appeler ainsi, confie à ses serviteurs les biens sur lesquels il a la souveraineté. Le texte grec insiste à signifier que cet homme a ce qu'il a. C'est un maître qui s'est approprié ce qu'il aurait pu se contenter de posséder. Pas étonnant qu'il sache donner. Ce maître remet ses biens, il les abandonne, il les livre. Il ne va pas dire « je te les confie jusqu'à ce que je revienne ». Il transmet les pleins pouvoirs sur ses biens. C'est une remise sans reprise. Et il donne des sommes énormes. 100 pièces d'or ou un talent, c'était 6 000 deniers. Et un denier correspond à une journée, au salaire d'une journée de travail. Donc si vous faites un peu le calcul avec les jours fériés et les congés, ça fait 100 pièces d'or, c'est 17 ans de salaire. Même celui qui n'a reçu que 100 pièces d'or est à la tête d'une bien belle somme. Le talent, en Grèce antique, ce n'était pas seulement une unité de monnaie, c'était aussi une unité de poids. Et ça faisait à peu près 30 kilos. Sans cette parabole de l'Évangile, nous n'aurions pas en français le mot « talent ». Mais le mot « talent » est devenu cette chose non quantifiable. C'est l'aptitude particulière à faire quelque chose, le don, la capacité remarquable dans le domaine artistique, littéraire. Alors dans l'interprétation de cette parabole, certains ne retiennent que l'aspect spirituel du talent. Qui peut représenter un ministère, une capacité d'intendance, un don dans l'Église, les fruits de l'Esprit. Mais la parabole elle-même ne catégorise pas les dons naturels et les dons spirituels. Elle insiste plutôt sur l'essentiel, c'est ce que nous en faisons. À chacun selon ses capacités ou selon la force qui lui est propre. Donc le maître a donné à ses serviteurs, à chacun selon ses capacités. Alors on pourrait dire le premier sens littéral pourrait se référer au poids du talent. Pour ma part, j'aurais à peine eu un demi-talent, parce que rien que pour porter 30 kilos, c'est pas évident. Mais peut-être qu'il s'agit d'une autre capacité, la capacité à recevoir. Faut-il vraiment une force particulière pour recevoir un don ? Alors nous pensons à ces héritiers de grandes fortunes, ces artistes aux dons remarquables, ces grandes beautés qui n'ont pu supporter leur vie, qui n'ont pas pu assumer leur gloire, ce poids que donnent les dons, et qui finalement ne se sont appropriés que leur destruction. Dans cette capacité à recevoir un don, il y a une responsabilité à veiller aux effets secondaires sur soi, sur sa famille, sur son entourage. Et c'est bon de savoir que le maître tient compte de cette distribution. Aussitôt, le premier serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla faire du commerce. Et d'ailleurs, les deux premiers serviteurs se mettent à l'œuvre, ils travaillent les talents reçus, ils les transforment. La parole de Dieu transmise par la foi, l'espérance, l'amour, avec les talents naturels, ce sont autant de pièces d'or qui ne rapportent que dans la mesure où ils sont mis en œuvre au milieu des humains. L'histoire ne dit pas ce que cela signifie comme réorientation dans leur vie, comme renoncement dans leur carrière, comme chamboulement pour la famille. Seul leur empressement à faire fructifier leur talent est souligné. En fait, il y a un poids légué par le maître qui leur donne de vivre leur consistance. Ils s'interrogent sur la façon d'être au monde et ils se mettent au travail. Et ça s'exprime au niveau du service des autres, de prendre soin de l'environnement, de contribuer à la justice dans les institutions, d'exercer consciencieusement sa profession, quelle qu'elle soit, de créer emplettes et cagettes. Mike Horn, un aventurier de l'extrême, dit « Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponse à ces questions. Les 95% restants viennent le long du chemin. » Ceux qui veulent 100% de réponse avant de partir restent sur place. Je crois que les serviteurs, ils ont compris cela et aussitôt, ils se sont mis en marche. Le serviteur avec 500 talents a fait fructifier ses talents. De même, celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagne 200 autres pièces. De même, on peut imaginer un embryon communautaire entre ces deux serviteurs qui se refilent les stratégies, les bons plans, les réseaux sociaux qu'ils mettent en commun. Le serviteur à deux talents n'était visiblement pas ravagé par l'envie ou l'esprit de compétition par rapport au serviteur à cinq talents. Et c'est vrai que la question à nous poser, ce n'est pas « pourquoi je ne suis pas ce que je ne suis pas ?» mais « comment je fructifie ce que je suis ?» Au service de qui, de quoi j'utilise les talents qui sont les miens ? Cinq talents, deux talents, peu importe. Finalement, peu importe la somme reçue. Marie Balmarie, dans son dernier livre, évoque au sujet de cette parabole les mathématiques du royaume de Dieu. Je cite, « 5 égale 2 lorsque l'important, c'est de s'approprier ce qui est donné, de développer en œuvrant jusqu'à ce que le fruit de l'œuvre soit égal au don. » C'est là que la relation maître-serviteur peut évoluer vers une autre dimension. Certes, quand on nous confie des responsabilités, il y a une appréhension, il y a des incertitudes, une crainte de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir comment s'y prendre. Mais si nous laissons toute la place à la peur, cela nous prive de prendre notre part dans le royaume. Avoir peur conduit finalement à être inutile, à négliger le poids que nous lègue le royaume. Qu'est-ce qui fait la grande différence entre les deux serviteurs, les deux premiers serviteurs et le dernier qui est pétrifié par la peur ? Qu'est-ce que vous pensez ? Exactement. Enfin, je pense à ça. Peut-être qu'il y a d'autres choses, mais je pense que cette l'image qu'ils ont de leur maître est tout à fait différente. À se poser la question si c'est vraiment le même maître. Mais l'image du maître est en jeu, là. Le maître remet ses biens à ses serviteurs et il part très loin à l'étranger. Il n'a pas laissé son portable, son numéro de portable au serviteur pour qu'il le joigne en cas de pépin. Il leur fait pleinement confiance. Comme lui s'était approprié ses biens, il attend la même disposition d'esprit de ses serviteurs. Il accepte que les affaires soient ce que les serviteurs en font. Notre maître Jésus accepte que l'Église soit ce que les ouvriers en font. Cela nous évoque les textes de la Genèse où Dieu confie aux humains la gestion de tous ses biens. Il leur donne la capacité de faire fructifier et de multiplier. Et le septième jour, Dieu se repose de toute l'œuvre qu'il avait faite, Genèse 2, et il se retire. Même si sa voix était présente dans le jardin d'Éden. Mais il laisse les deux protagonistes, Adam et Ève, toute latitude pour s'approprier leur mission, pour comprendre, entreprendre allègrement, prendre des risques, voire de se méprendre. Et d'ailleurs, c'est là qu'il les rejoint, dans leur déroute, leur désolation. Adam, où es-tu ? Dieu omniscient va demander à Adam, où es-tu ? Dieu n'est pas comme ses parents hélicoptères qui veulent tout savoir de leur enfant en tout lieu. En tout cas, cette parabole insiste sur la liberté que nous laisse le maître du royaume. Ça ne veut pas dire que les paroles de Jésus n'ont pas de valeur quand il dit « Je suis avec vous tous les jours ». Mais je crois qu'il nous faut entendre cette confiance qu'il nous laisse quand il nous dit « Je suis avec vous tous les jours ». Ça ne veut pas dire qu'il est là à décider tout pour nous, à prendre toutes les initiatives. Et la question, que faisons-nous de cette confiance que Dieu place en nous? Donc le troisième serviteur, très clairement, n'a pas pu s'approprier le talent que le maître lui a confié. D'ailleurs, il le redonne tel quel à son maître. L'image qu'il cultivait de son maître était indéboulonnable, en toute conscience. « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. » J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Ce serviteur est bien malheureux. Il ne croit pas au don. Il ne croit pas au maître comme donateur. Et il ne se croit pas lui-même comme destinataire du don. Il n'a pas pu entrer dans une relation d'amour avec son maître. En quelque sorte, il s'est enterré lui-même avec l'argent. Le temps des comptes pour entrer dans la joie du maître. Le maître, bien longtemps après son départ, vient, revient. Alors le texte dit, il règle ses comptes avec eux. Et c'est vrai, très vite nous viennent à l'esprit des comptes d'épicerie revendiqués par un boutiquier scrupuleux. Ben, c'est pas ça. C'est plutôt qu'il s'agit de rendre compte, de faire un compte rendu. Vous savez, ces comptes rendus dont le conseil d'église, dont les conseils d'église connaissent bien et qui ont vraiment leur importance. Il s'agit plutôt de raconter. Comme quand Jésus a envoyé ses disciples en mission et quand ils en reviennent, ils lui racontent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé. Nos deux premiers serviteurs présentent les nouveaux talents gagnés. Textuellement, c'est « voix, cinq autres talents gagnés ». Voilà, c'est pour regarder, c'est pour admirer. Ils ne viennent même pas rapporter les talents reçus. Ils présentent les talents gagnés, multipliés. Nous sommes ici loin d'un récit de restitution. C'est plutôt un récit de reconnaissance. Les deux serviteurs sont devenus chacun donateurs à la ressemblance du maître, du créateur-maître. Et quand il dit serviteur fidèle, voilà, ce n'est pas dans le sens bon chien fidèle, c'est bien serviteur bon et fiable. Cette attestation de l'œuvre du serviteur est essentielle pour entrer dans la joie du maître. Elle résonne comme l'exclamation du Dieu créateur à chaque étape de la création. Dieu vit que c'était une bonne chose. Et quand on dit entrer dans la joie du maître, de quelle joie s'agit-il ? Alors nous la retrouvons tout au long de la Bible. Nous la retrouvons chez Job dans ce qu'on éprouve à la naissance d'un enfant. Lors du sacre du roi Salomon. Chez le psalmiste au seuil de la maison de l'Éternel. Tout mon être crie sa joie au Dieu vivant. C'est une joie qui jaillit dans le Nouveau Testament chez ceux qui entendent l'annonce du salut, la fête au retour du fils perdu qui se croyait déchu, l'émotion des femmes apprenant la résurrection. « L'important, ce n'est pas la quantité de métal, même précieux, que les serviteurs rapportent. D'où les paroles du maître, tu as été fidèle en peu de choses. Mais c'est la transformation de la relation dans le processus qui est autrement plus importante que l'accroissement des richesses. Ce que les bons serviteurs fiables rendent possible, c'est que le Maître Jésus-Christ peut aujourd'hui les inviter, hommes et femmes serviteurs, à entrer dans sa joie, à avoir le statut d'héritier de Christ, selon Romains 8, ou de collaborateur de Dieu, 1 Corinthiens 3. L'important, c'est la manière dont la relation avec le maître a évolué. Le parcours du troisième serviteur prend une autre tangente. Lui, il n'a fait que de la conservation. Il n'a pas cru à l'amour, à la confiance de son maître. Je savais que tu es un homme dur. C'est d'ailleurs la seule chose que le maître ne reprend pas à son compte. Et c'est une phrase redoutable. Comment peut-on connaître l'autre sans lui ? Et là, le maître se plie en quelque sorte à l'image que le serviteur s'est faite de lui. Dans une parabole semblable dans l'évangile de Luc, le maître dit « Je vais te juger sur tes propres paroles ». Je vais te juger sur tes propres paroles. Non qu'il devienne cet homme dur décrit par le serviteur, mais il fait vivre à son serviteur les conséquences de son raisonnement et de son comportement. En fait, c'est le principe du jugement. Mauvais serviteur, paresseux, on pourrait aussi traduire serviteur malheureux, hésitant, indécis. En fait, le maître le débarrasse de ce talent ingérable pour lui, indigérable, et le donne à celui qui sait gérer et digérer. À celui qui a ce qu'il a, il sera donné, il aura en surplus. À celui qui n'a pas ce qu'il a, ce qui lui a été donné, ben cela lui sera repris. Et ce serviteur, bon à rien, jetez-le dans l'obscurité du dehors, dans les ténèbres du dehors, là où l'on pleure et grince des dents. Jusque-là, on peut imaginer que c'est dans son monde intérieur que ce serviteur a cumulé pleurs, grincements de dents, colère, amertume. Peut-être que d'être jeté dans les ténèbres du dehors, cela lui permettra de prendre conscience de tout ce qu'il habitait intérieurement, colère, amertume, et qui l'empêcherait de célébrer le don du maître pour lui. Peut-être est-ce encore une piste d'espérance. Alors une dernière remarque sur la mention spéciale de la banque dans les paroles de Jésus. Il dit « Tu aurais dû placer mon argent à la banque et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. » Le théologien Alphonse Maillot, qui a vécu au siècle dernier, commente en disant « Ce détail des banques signifie clairement que le Christ envoie ses serviteurs là où on s'attendrait le moins à les trouver. Désormais, nul endroit n'est interdit au talent de la parole divine. » Aucun domaine n'est fermé à la présence chrétienne. Le témoignage chrétien peut s'introduire partout, même à la banque. Il est certain que l'Église qui s'abîmerait satisfaite et solitaire dans la contemplation de ses pièces d'or risque de se retrouver larmoyante et grinçante dans les ténèbres du dehors. Mais, fin de citation, il est permis de penser justement qu'il y a toute raison aussi d'exercer ses talents dans la banque. Et d'ailleurs, on a vu au début que faire du commerce est valorisé par Jésus. En conclusion, le royaume de Jésus est décrit comme un lieu où l'on n'est pas passif. Nous y sommes invités à prendre des risques. Ce royaume, nous pouvons le vivre en Église, où nous nous voyons confier des responsabilités. Pour nous, il s'agit de ne pas négliger les dons de la grâce qui nous ont été donnés, mais de nous les approprier pour les faire fructifier. 2 Timothée 1,6 dit « Maintiens en vie le don que Dieu t'a accordé. » Si tu ne t'acceptes pas toi-même avec tes dons, tu ne peux pas t'offrir dans la relation avec Dieu, avec les autres. L'important, ce n'est pas la quantité de dons reçus, ni la quantité de fruits de l'ouvrage. Ça reste toujours une petite affaire. Tu as été digne de confiance dans les choses qui ont peu de valeur. L'important, c'est l'évolution de notre relation avec le Maître qui nous fait entrer dans sa joie comme ses héritiers. Quand nous prions en Église « Notre Père qui es aux cieux », nous nous reconnaissons ensemble « Fils et filles de notre Père céleste ». Nous pesons les talents innombrables dont nous sommes au bénéfice et nous célébrons avec joie son amour qui en Église nous pousse à nous mettre à son service. Amen. J'aimerais encore prier avec vous. Merci Seigneur pour ta parole qui nous fait vivre. Merci pour la confiance que tu nous accordes en nous appelant à vivre en Église. Merci pour les dons de chacune. Chacun ici présent. Aide-nous à les reconnaître, à les mettre en œuvre dans l'unité de l'Église et dans la joie du travail ensemble. Merci pour Élisée et Nathalie, pour leur présence active dans cette Église, pour leurs dons. Nous te remettons leur ministère, que ce soit l'occasion pour l'Église, petits et grands, jeunes et vieux, de vivre de ton amour et de ta joie, dans l'espérance de ton retour. Amen.